Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
La clause de conscience des médecins a une nouvelle fois fait l'objet de débats. Vendredi, au moment de l'examen du projet de loi santé, plusieurs députés ont demandé à supprimer cette clause de conscience invoquée par des médecins qui refusent de pratiquer l'IVG. En septembre, des sénateurs avaient déjà déposé une proposition de loi en ce sens suite aux propos du président du syndicat national des gynécologues qui avait assimilé l'IVG à un homicide. En quoi consiste cette clause et jusqu'où les médecins peuvent-ils l'invoquer ? Bonjour Joël Morey-Bailly.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit privé à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et notamment spécialiste en droit des professions de santé, déontologue du CNRS. Et vous avez publié Le droit des déontologies. Alors, en quoi est justement un médecin et dans quel cadre peut-il invoquer cette clause de conscience ? Comment peut-il l'utiliser ?
Alors, la question, plutôt la réponse, renvoie à l'article L212-8 du Code de la santé publique, que je vais vous lire brièvement, parce qu'il vaut mieux donner, il vaut mieux se fier au bon Dieu qu'à ses saints. Voilà ce que dit le premier alinéa. Un médecin ou une sage-femme, c'est depuis 5 ans à présent, n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais il doit informer sans délai l'intéressé à ce nombre de choses. Donc il n'est jamais tenu de pratiquer une IVG. Ça, c'est ce que dit la loi. Et puis, il y a également le code de déontologie qui, dans son article 47, prévoit que, hors le cas d'urgence ou celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Donc ça,
c'est beaucoup plus large. N'importe quel soin, hors cas d'urgence, pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Mais c'est quand même très étonnant parce que on se dit qu'à partir du moment où un médecin est là pour soigner, il doit nécessairement obtempérer et prodiguer les soins qui sont nécessaires pour la personne.
Alors on peut se dire cela, on peut se dire aussi que pour des raisons professionnelles, s'il ne se sent pas compétent, il vaut mieux qu'il n'intervienne pas et qu'il renvoie à quelqu'un de compétent, c'est ce que veut dire cet article. Et puis pour des raisons personnelles, l'idée est la suivante, il se trouve que un médecin va prendre en charge un patient et on se dit qu'il vaut mieux qu'il ait envie de le prendre en charge. On pourrait établir un parallèle, il vaut mieux qu'un avocat ait envie de défendre son client, on peut penser qu'il le défendra mieux s'il en a envie que s'il n'en a pas envie. Même chose par rapport au médecin. Alors, il ne s'agit pas de prétendre que la règle est belle et bonne, il s'agit de dire voilà la logique qui se retrouve derrière celle-ci. Et puis j'ai oublié de vous dire que dans le cadre de l'application de la loi sur l'IVG, de l'article que je citais tout à l'heure, il y a un article 18 dans le code de déontologie médicale également, qui vous dit qu'un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressé dans les conditions et délais prévus par la loi. Donc ici, il s'agit du code de déontologie pris comme un décret d'application de la loi. Il ne faut jamais oublier que le code de déontologie médicale est bien un décret.
Mais alors, n'est-ce pas parfaitement contradictoire avec l'idée selon laquelle les femmes sont libres du droit de disposer de leur corps et donc de faire prodiguer un IVG dans le cas où elle le jugerait nécessaire et dans les limites, bien entendu, qui sont fixées par la loi, Joël Morey-Bailly, vous qui êtes professeur de droit privé?
Il se trouve que la loi prévoit qu'effectivement une femme peut, et depuis quelques années avec de moins en moins de conditions, il fut un temps où il fallait démontrer une détresse, ce n'est plus le cas aujourd'hui, une femme peut demander d'avoir recours à l'IVG. La question de l'articulation entre les règles dont on vient de parler et ce qu'on appelle habituellement le droit à l'IVG, même si la loi ne parle que d'une possibilité, dans les pratiques, on peut bien comprendre, et politiquement, on peut bien comprendre qu'il s'agisse d'un droit. La question est celle de l'articulation entre cette règle-là et la règle selon laquelle le médecin peut refuser. La question serait que il y a une conciliation des deux règles qui ne pose pas de difficulté tant qu'une femme peut avoir recours à l'IVG si elle l'estime pertinent. Donc il faut qu'elle trouve un médecin de ce point de vue-là. Il y aurait difficulté si elle ne trouvait plus de médecin, auquel cas on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement une remise en cause de son droit, comme ça a été le cas dans la Sarthe il y a quelques mois.
Et alors justement, parce que dans ces conditions, est-ce qu'il y aurait une sorte de droit opposable en imaginant par exemple que différents médecins qui seraient situés autour du domicile de la personne refusent de pratiquer un IVG, que faire, professeur Morey-Bailly ?
Mais que faire ? D'abord, il se trouve que l'article dont je vous parlais tout à l'heure vous dit que le médecin qui refuse l'IVG doit informer sans délai l'intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens ou des sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention dans les modalités prévues par la loi. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, le médecin qui refuse doive réaiguiller vers quelqu'un, vers un professionnel, voilà, médecin ça, ou sage-femme.
Si c'est possible, pardon, moi je vous ai coupé, mais alors c'est évidemment une question qui peut se heurter à la démographie médicale.
On est absolument d'accord. Et ce qui veut dire qu'on est en train de déplacer le débat et de manière, me semble-t-il, relativement pertinente. On ne peut pas réfléchir à la question dont on parle en pensant aux médecins individuellement. Enfin, on peut réfléchir à cela. Ça devient une question de morale et de pertinence pour les médecins comme professionnels de refuser ou pas. On peut aussi prendre la question comme une question d'organisation des soins, en se disant que les femmes ont, pour aller vite, un droit à l'interruption volontaire de grossesse et qu'évidemment il s'agit de faire en sorte, dans le cadre d'une politique publique de santé, de permettre la réalisation de ce droit, mais qu'en même temps on peut parfaitement imaginer que les médecins puissent ne pas vouloir pratiquer une IVG. Encore une fois, je vais faire le parallèle avec la profession d'avocat, on peut parfaitement imaginer qu'il faille qu'une personne soit défendue par un avocat, quelles que soient les circonstances, et pour autant laisser la liberté aux avocats de refuser un dossier. Alors, chez les avocats, il y a un troisième étage à la fusée, qui est que si aucun avocat ne veut défendre, c'est le bâtonnier qui s'y colle, en quelque sorte. On n'a pas ce type de mécanisme à propos de l'IVG.
Bon, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, Joël Morebaillie, parce que si on s'éloigne de l'IVG, on peut se dire, par exemple, qu'un médecin pourrait refuser de me soigner, parce qu'il pourrait trouver, par exemple, que mon mode de vie est contraire aux règles de la vie saine et que par conséquent il n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un qui est aussi éloigné de la santé que moi.
Alors on a eu un débat il y a quelques années, non pas à propos de la question que vous venez de poser, mais à propos de la question de la discrimination, parce qu'on pourrait effectivement imaginer qu'un médecin refuse certains types de patients en fonction de la couleur de leur peau, de leur mœurs, de leur origine ou du type de pathologie dont ils sont porteurs. Il y a eu des évolutions du code de la santé publique en la matière, évolutions qui ménager un petit peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit que déontologiquement, évidemment, un médecin ne peut pas refuser un patient pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire celles qui ne seraient pas celles que j'ai énoncées tout à l'heure. En revanche, quand on regarde la procédure qui amènerait à obliger un médecin à soigner suite à un refus soin de sa part, on a une usine à gaz et qui est quasiment impossible à mettre en œuvre.
Et oui, mais ça veut dire aussi que finalement, la morale républicaine, elle n'est pas unique, elle ne s'impose pas aux uns et aux autres.
Alors on pourrait imaginer, comme dans le cadre de la laïcité, que la morale républicaine soit une morale qui permette à chacun de suivre la sienne.
Merci beaucoup, professeur Morebaillie. Je rappelle que vous avez notamment publié avec Didier Truchet « Le droit des déontologies » aux Presses universitaires de France.